avec le plus grand plaisir demain matin pour Dimanche Bonheur de 9h à midi avec Chantal, une heure d'accordéon, 2 heures de chansons françaises. Voilà, je vous laisse avec Polémix tout de suite et rendez-vous demain pour Dimanche Bonheur dès 9h. Bon pied, bon oeil. Salut, à demain.
Radio G, 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. C'est une lutte de classe, la Commune de Paris. C'est pas une simple guerre civile. Ils ont bien compris ce que c'était que la lutte des classes. Hein. Ils savent bien contre qui ils se battent. Hein. Et ils vont effectivement se heurter à la bourgeoisie, des possédants, des propriétaires, des banquiers, qui vont envoyer leur armée pour les écraser. Bon, c'est la bourgeoisie qui va gagner. La classe ouvrière a été matée dans le sang. Pour autant, est-ce que cette lutte était vaine, inutile, absurde ? C'est ce qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui, évidemment. Quelquefois que les gens, les gilets jaunes ou les autres, voudraient s'essayer à refaire la même chose, c'est-à-dire renverser les gens du pouvoir, balayer les exploiteurs. C'est pour ça que la Commune de Paris, soit on essaie de ne pas en parler, c'est ce qu'on a fait pendant plus de 100 ans, soit quand on en parle, c'est pour la débiner.
Après seulement 72 jours d'existence, entre mars et mai 1871, la Commune de Paris terrorise toujours la bourgeoisie d'aujourd'hui, descendante pour l'essentiel de la bourgeoisie d'hier. Salut, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue à toi dans le second épisode de cette série sur la Commune de Paris. Toujours avec notre ami André, prof d'histoire géo, qui nous a, au précédent épisode, planté le contexte de cet événement patriotique et révolutionnaire dont on ne nous parle surtout pas, ni à l'école, ni dans les médias, bien plus prompt à célébrer le dictateur sanguinaire que fut Napoléon Bonaparte. Salut André.
Salut.
La Commune de Paris, ce sont des mesures révolutionnaires. Il est décidé que les loyers parisiens non payés depuis 6 mois pour cause de pauvreté ne seraient plus dus. Et les poursuites concernant les échéances en retard, suspendues aussi. 3 ans sont désormais accordés pour le règlement des dettes. Et proclamer la séparation de l'Église et de l'État. L'union libre est reconnue. L'école déclarée laïque est gratuite. Les signes religieux sont enlevés des salles de classe. L'instruction des filles est à l'étude. L'égalité des salaires entre les hommes et les femmes désormais envisagée. La citoyenneté française est ouverte aux étrangers. La journée de travail dans certains ateliers est réduite à 10 heures. Le travail de nuit des boulangers est supprimé. Les retenues sur salaire interdites, un salaire minimum est instauré, la liberté de la presse est garantie et j'en oublie. La Commune est donc un véritable cauchemar pour la bourgeoisie qui vient tout juste de proclamer la Troisième République à la suite de la défaite et de la fuite de Napoléon III. On comprend donc pourquoi, alors que depuis 1870, la France subit une invasion prussienne, en 71, les bourgeois qui gouvernent depuis Versailles envoient une armée, dite des Versaillais, qui, au nom de la République et avec l'aide des Prussiens, va massacrer près de 20 000 Parisiens, hommes, femmes et enfants. Pour la bourgeoisie française au pouvoir depuis 1789, le principal danger n'est pas l'envahisseur allemand, ou plutôt prussien comme on disait à l'époque. Le principal danger, c'est le peuple français qui, avec la Commune, donne là un bien fâcheux exemple de ce que pourrait être une société socialiste, voire anarchiste. Et comme on le verra à nouveau entre 1940 et 44, ce ne sera pas la dernière fois que la grande bourgeoisie française se servira des Allemands pour mater d'autres Français. après avoir fait massacrer la Commune de Paris dans un bain de sang, la bourgeoisie tente d'enterrer son souvenir. La Commune, on n'en parle jamais, surtout pas dans les manuels scolaires et encore moins à la télé. Mais pourtant, dans la mémoire collective des Français, l'événement a laissé un écho sous forme d'une chanson que presque tout le monde connaît.
Quand nous en serons au temps des cerises, le doux rossignol, le maire et le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, quand l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, pendant sous les feuilles en gouttes de sang. Il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps cerise et le souvenir que je garde au cœur.
Le temps des cerises, ici par Mouloudji, est l'un des souvenirs les plus prégnants que nous aura laissé cette Commune de Paris dont on ne nous parle surtout pas, des fois que ça nous donnerait des idées. Survenue en 1871, la Commune est une aventure révolutionnaire et patriotique. Le peuple parisien résiste à l'invasion des armées prussiennes, car en 1870, Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse et on va voir pourquoi. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du premier Napoléon, est élu président de la Seconde République en 1848. En 1852, il fait un coup d'État et devient l'empereur Napoléon III. Mais vers la fin de son règne, son régime s'affaiblit. Pour réaffirmer son pouvoir et ranger les Français derrière lui, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. C'est la guerre de 70 que la France va perdre de manière lamentable, notamment pour cause de trahison dans l'état-major français, comme en 1940. Les Prussiens cernent Paris. Mais le peuple parisien continue le combat contre l'envahisseur étranger. Napoléon III s'enfuit, son régime s'écroule, et la bourgeoisie française crée une troisième république, réactionnaire, bien plus effrayée par les Parisiens que par les Prussiens. Mais revenons-en au Second Empire de Napoléon III, qui sur la fin lâche un peu de lest pour tenter de garder le pouvoir.
En réalité, il n'a jamais manquer du soutien de la grande industrie, de la banque et de la grande bourgeoisie. Simplement, la bourgeoisie, elle a besoin d'un régime qui a un soutien, qui est stable, qui n'est pas menacé. Il est là le problème du régime impérial, si tu veux. À partir du moment où le régime impérial devient fragile, du moins commence à avoir des signes de faiblesse, là, ça préoccupe évidemment les gens qui sont derrière hein, et qui vont prendre le pouvoir d'ailleurs sous la République. Il y a une contestation. D'abord, il y a une montée du mouvement ouvrier. Si Napoléon III a consenti à légaliser la grève en 64, c'est parce qu'il y avait des grèves avant. Regardez Germinal, etc. Bon, ce sont des concessions qu'il fait. Il fait également quelques concessions aux libéraux de l'Assemblée, etc. C'est ce que les historiens bourgeois appellent l'Empire libéral, c'est-à-dire la fin de l'Empire. On peut considérer que la fuite dans la guerre est un peu un moyen de faire une guerre pour renforcer son pouvoir. Il va provoquer la guerre avec les Prussiens. Alors, ça tombe bien, Bismarck aussi voulait provoquer la guerre. Donc, il y avait deux provocateurs, un de chaque côté. Bismarck, la guerre, pour des raisons de la formation de l'Empire allemand sous l'égide du royaume de Prusse, pour des raisons différentes, mais n'empêche que les deux vont courir à la guerre. Donc la guerre éclate sur une merde diplomatique, la dépêche d'Ems. Bon, je laisse aux auditeurs le soin de regarder dans les bouquins ce pataquès invraisemblable. Bref, la guerre est déclarée. Sauf que, évidemment, bon, bah, sur le plan militaire, prenons le plan militaire, hein, l'armée française, les cadres de l'armée, donc l'état-major et les officiers, sont des gens essentiellement qui ont servi en Afrique, en Algérie. Ils ont fait des guerres coloniales. Alors là, pour tuer de l'arabe, ça y allait, quoi. Hein. C'était pas besoin d'être un grand stratège, etc. Il y avait des armements très supérieurs, etc. Bon. Mais là, c'est différent. Ouais. On va tomber sur l'armée allemande, hein, et là, l'armée allemande, elle est autrement mieux équipée. Il y a une supériorité en artillerie évidente. Hein. Ils ont des canons en acier qui se chargent par la culasse, alors que l'armée française est encore équipée de canons en bronze qui se chargent par la gueule. Enfin bref, il y a une infériorité. Bon, ils ont des mitrailleuses de chaque côté, mais l'artillerie, ça compte quand même. Et puis surtout, l'état-major allemand, ce sont des gens plus capables, plus hardis. On a longtemps disserté, on disserte encore sur les causes du désastre militaire, parce que sur le plan des effectifs, l'armée française est largement supérieure à l'armée allemande. Comment expliquer ces désastres militaires successifs? On peut certainement dire que du côté des généraux en France, c'était des incapables, des nuls, c'était des archi-nuls, c'est certain. Mais c'est pas la seule raison aussi. Par exemple, comment expliquer la reddition de l'armée avec l'empereur dans Sedan, puis ensuite après la reddition de l'armée de Bazaine, à chaque fois c'est 150 000 hommes qui se rendent avec armes et bagages à l'armée allemande. Mais il y a d'autres raisons. Hein. Les raisons, c'est aussi des raisons politiques. Aussi bien pour Napoléon III, mais surtout Bazaine. Quel est le plus gros danger? Est-ce que ce sont les Allemands ou est-ce que c'est le risque de révolution à Paris? Et c'est tentant de se rendre aux Allemands et de s'occuper de la révolution à Paris. C'est d'ailleurs exactement ce qui va se passer. Donc on peut plus que soupçonner l'état-major, les officiers, hein, généraux, etc., de prendre le danger de révolution sociale beaucoup plus au sérieux que le danger de défaite militaire contre l'Allemagne. Après tout, bon, c'est un petit déshonneur, hein, mais ça, je n'en parle plus. Hein. Tandis que se retrouver avec une révolution à Paris, parce qu'à Paris, il y a des troupes aussi. Il y a 500 000 soldats. Il y a de l'infanterie, il y a 50 000, 60 000 fantassins, puis 15 000 infanterie de marine. Il y a des troupes régulières aussi, il y a des troupes qui sont dans les forts, parce que Paris est une ville fortifiée. Et il y a une garde nationale qui fait 300 000 gardes nationales. Ce sont des citoyens armés, la garde nationale. Hein, ça a été institué par la République, la Seconde République, etc. Ça n'a jamais disparu. Les citoyens forment une garde nationale. Et ça fait beaucoup de gens. Alors, bien sûr que là-dedans, il y a des soldats d'occasion, pas très fiables. Et puis, il y a aussi certains quartiers bourgeois de Paris qui ont des gardes nationales peu favorables à une guerre à outrance contre l'Allemagne pour la libération du territoire. Mais enfin, ça fait quand même des armées. Et la République qui va s'instituer à partir du 4 septembre va recruter en province des armées entières. Le problème est un problème politique. Contre qui on fait la guerre? Et pourquoi? L'empereur se rend, puis ensuite après Bazaine. La République va pendant quelques semaines organiser une résistance. Le 4 septembre, la République est proclamée à l'hôtel de ville de Paris. Bon. Ce gouvernement, animé par des patriotes comme Gambetta, etc., par des républicains, dans un premier temps refuse de signer tout arrangement avec les Allemands et poursuivre la lutte, à partir d'armées qu'ils vont constituer en province avec Chanzy, Faidherbe, Bourbaki, etc. pour poursuivre la guerre contre les Allemands et en se servant aussi de la place militaire forte de Paris. Ça va faire long feu. D'abord, ces armées ne vont pas vaincre, malgré le courage et la détermination de certains, ça ne va pas marcher. Ils vont subir des échecs et ils vont être défaits par les Allemands. Les unes après les autres, ces armées vont être défaites. Et puis, est-ce que la République a envie de faire la guerre? Le général qui gouverne Paris, c'est Trochu. Le général Trochu, il n'a pas envie de faire la guerre. Il est d'accord avec les dirigeants de la République qui s'est constituée, qui vont aller discuter avec les Allemands. Ils vont discuter avec les Allemands. Jules Favre rencontre deux fois de suite Bismarck pour essayer de discuter les conditions d'un armistice, etc. La première entrevue est un échec. Bismarck dit non, c'est comme ça. Nous, on veut l'Alsace-Lorraine, on veut le désarmement, et des conditions inacceptables, en tout cas officiellement inacceptables. Parce que le problème, c'est que ces discussions se font avec l'épée du peuple parisien dans le dos. Parce que les Parisiens, eux, ils disent on ne va pas livrer le pays comme ça. C'est le réflexe 1792 qui rejoue. C'est-à-dire on va défendre en même temps le territoire national et en même temps la République contre les armées étrangères. Et donc il y a toute une partie du peuple parisien, la petite bourgeoisie, les classes moyennes, etc., alliés avec les ouvriers qui également ne veulent pas de la trahison comme ça. Ils disent on poursuit la lutte à fond, etc. Mais en même temps, tu as le peuple parisien qui veut poursuivre la lutte et combattre les Allemands, etc. Puis tu as le gouvernement de la République qui est inquiet et qui a bien compris que le risque, c'est le risque d'une révolution à Paris. Le peuple parisien, extrêmement remuant, très revendicatif, pas seulement sur le plan de la défense nationale, mais également sur le plan social. Et là, en face du danger de subversion politique, sociale, d'insurrection populaire, ces grands bourgeois vont négocier avec Bismarck. En gros, le deal, hein, on va simplifier, parce qu'on ne va pas aller dans les discussions de ces trucs-là, mais le deal est simple. C'est, ils disent aux Allemands, vous nous laissez écraser, vous nous permettez d'écraser la révolte du peuple de Paris, vous nous aidez même par le siège, par le bombardement. Et en contrepartie, nous, on accepte vos conditions d'armistice, qui sont des conditions d'armistice qui vont aboutir à la formation de l'Empire allemand, mais pas seulement, qui vont aboutir aussi à l'annexion de l'Alsace, de la Lorraine, trois départements français, hein, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. Donc Metz va devenir allemande, ainsi que Mulhouse, Strasbourg, etc. Enfin bon, ces gens vont vivre dans l'Empire allemand à partir de 1871 jusqu'en 1918. C'est ainsi que mes grands-parents sont nés en Allemagne. Ma mère est née en Allemagne aussi en 1915. Mon livret de famille est rédigé en allemand. Et mon grand-père va d'ailleurs en 1914 faire la guerre dans l'armée du Kaiser Guillaume. Bref, voilà comment se fait la discussion, l'accord. Hein, il est question en quelque sorte de passer sur le dos de Paris. La République réactionnaire bourgeoise qui va s'installer à partir de 1871 va s'installer sur le massacre, la défaite si tu veux de la place de Paris, la commune de Paris, avec la complicité de l'Allemagne. Il gagne énormément parce que non seulement il va y avoir la reddition, mais il va y avoir aussi des milliards d'indemnités qui seront payées rubis sur l'ongle. La bourgeoisie française va payer l'Allemagne des indemnités de guerre. Celle-là, elle sera payée. Celle de 1914 ne sera jamais payée par l'Allemagne. Mais en revanche, cette indemnité-là sera payée entièrement en francs or. Hein. Bref, que se passe-t-il donc à partir de ce moment-là? Eh bien, l'Allemagne met la main sur les armements de deux armées. Là, d'abord l'armée de Louis-Napoléon, Napoléon III, quoi, à Sedan. Et puis ensuite, l'armée de Bazaine qui se rend le 27 octobre 1870. Donc la République est déjà installée. Hein. Il livre Metz avec des armements, des milliers de canons, enfin bon. Le 31 octobre, le peuple de Paris envahit l'hôtel de ville pour réclamer une défense, une vraie défense, une vraie contre-attaque. Mais les armées qui ont été envoyées par Gambetta, par la République, en province, Faidherbe, Chanzy, Bourbaki, subissent des défaites, des épreuves, etc. Et bon. Pendant ce temps-là, les Allemands investissent Paris, c'est-à-dire l'entourent complètement, empêchent tout ravitaillement, tout passage. Les gens qui passent sont fusillés. D'ailleurs, les Parisiens vont souffrir de la faim. Là, ils vont manger les animaux du zoo de Paris, mais enfin, bon, c'est... 22 janvier, il y a une deuxième tentative d'insurrection. Il faut dire que l'Assemblée nationale, qui s'était formée à Bordeaux, en très grande majorité royaliste, va se transporter à Versailles. À la tête de cette Assemblée, il y a un homme, Adolphe Thiers, qui a servi tous les régimes depuis Louis-Philippe, bien sûr. Enfin, c'est ni un monarchiste, ni un républicain, c'est un défenseur de la grande bourgeoisie, c'est un homme de la bourgeoisie. D'ailleurs, il est lui-même un bourgeois, il est actionnaire de la compagnie des mines d'Anzin. Donc c'est un homme qui gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est un serviteur de la bourgeoisie, enfin acharné. Et c'est lui, le dirigeant de Versailles, qui va écraser la Commune de Paris, Adolphe Thiers. Il s'installe à Versailles. Il y a un moment donné où la Commune aurait pu tirer un avantage avant que les Versaillais ne s'organisent vraiment. On peut imaginer, par exemple, que les gens de la Commune de Paris aient profité de cet avantage et pris l'argent, par exemple, de la Banque de France. Ils n'ont pas touché l'argent de la Banque de France pour s'armer, pour s'équiper, pour recruter des hommes, etc. Bon. Ils n'en ont pas profité. Et c'est Thiers qui va en fait profiter de ce moment d'inaction et d'attentisme des dirigeants de la Commune. Ce sont des gens assez légalistes, en fait. Il y a beaucoup là-dedans de classe moyenne, très légalistes, etc. Ils ne s'imaginent pas qu'il va y avoir une guerre civile. Ils ne pensent pas que le conflit aille jusque-là, quoi. Et donc, ils vont laisser les gens de Versailles de prendre leur disposition. Première disposition, Thiers organise une véritable provocation, là encore. C'est-à-dire qu'il va essayer de s'emparer des canons de Paris qui sont sur la butte Montmartre. Il y a des centaines de canons qui ont été payés par les Parisiens, payés par souscription. Alors, bien sûr, le peuple de Paris réagit très vite, chasse les soldats, fusille même deux officiers, et puis se réapproprie les canons. Là, la lutte est démarrée, en fin de compte, à partir de ce moment-là, quoi. Le 28 janvier est signé l'armistice avec l'Allemagne, 28 janvier 1871. Les conditions sont désastreuses, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, Le 10 mars, l'Assemblée nationale, élue à Bordeaux en février, se transporte à Versailles. Et en même temps, se crée une fédération républicaine de la garde nationale. C'est ça la Commune. C'est une fédération de garde nationale. Or, c'est important la garde nationale parce que c'est des hommes en armes. Plusieurs centaines de milliers d'hommes en armes, auxquels vont s'ajouter les soldats volontaires qui sont situés dans la ville de Paris. La Commune elle-même, en gros, ça commence le 18 mars et ça se termine le 28 mai. C'est un temps assez court, enfin.
72 jours.
Pendant ces 72 jours, si vous voulez, il y a deux choses. Il se passe d'abord une résistance militaire parce que Paris, encerclé par les Allemands, est attaqué par l'armée de Versailles. Alors l'armée de Versailles, c'est quoi? L'armée de la République. Ces armées, une partie de ces armées qui ont été vaincues par les Allemands, les hommes de troupes sont pour très majoritairement des paysans, des gens issus de la campagne, qui vont pas hésiter. On leur a dit c'est des partageux, c'est des vilains, c'est des salauds, c'est des terroristes, etc. Faut les tuer, quoi. Bon. Donc ils vont pas se poser beaucoup trop de questions.
On fout la trouille aux paysans aussi. C'est des partageux, ça veut dire c'est des gens qui vont faire en sorte que vous ne serez plus propriétaire de votre petit lopin de terre si vous l'êtes.
C'est ça, bien sûr. C'est des gens à qui on brandit l'épouvantail de la révolution, des communistes, etc. Et pendant ces 72 jours, et c'est pour ça que l'événement a, que ce n'est pas une simple guerre civile. C'est qu'il y a un enjeu politique. Il s'agit d'une lutte entre le gouvernement bourgeois conservateur de Versailles, qui veut établir l'ordre, c'est-à-dire la société bourgeoise, et ce peuple parisien qui va créer une commune, le nom est important, hein. C'est un nom anarchiste. On va dire d'abord qui sont ces communards. D'abord le peuple parisien. C'est très mélangé, hein, le peuple parisien. Là-dedans, il y a tout. Il y a des prolétaires, mais il y a aussi énormément d'artisans. Beaucoup de petits bourgeois, de boutiquiers, de maîtres imprimeurs, de maîtres bronziers, relieurs. C'est pas de la grande industrie, c'est de la petite industrie, c'est des petits artisans. Ces gens sont très influencés par les idées proudhoniennes, par les idées socialistes. C'est des gens qui ont lu Rousseau aussi. Ils sont jacobins. Il y a aussi la grande force des idées jacobines de 1793. Robespierre. Ces gens sont animés par l'esprit de 1793. L'ennemi, c'est pas seulement un ennemi national contre le territoire français, c'est aussi un ennemi de classe. On confond dans le même combat le combat pour la patrie, pour son sol, pour sa terre, pour sa maison, etc., et le combat contre les aristocrates, les monarchistes et la réaction en France. C'est un combat qui est en même temps politique et patriotique. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre ce que ça peut être que le patriotisme politique. Hein, on sait pourquoi. Il s'agit tout simplement de baiser le cul de l'Europe, hein, et de dire la nation française n'existe plus, etc. Et ça permet comme ça de se soumettre, hein, aux grands capitalistes qui s'appuient sur l'Europe. Les grands capitalistes sont devenus internationalistes. Hein. Ça m'a toujours fendu le cul, ce truc-là. C'est incroyable, quoi. Hein. Bon, revenons à la Commune. Ces gens, ils sont dans un peu les mêmes état d'esprit que les Jacobins de 1793. Les Jacobins de 1793, les gens de Robespierre, c'était aussi des petits bourgeois, c'était aussi des boutiquiers, c'était aussi des artisans, des maîtres. Il y avait beaucoup plus de maîtres que de prolétaires parmi les Jacobins et parmi les sans-culottes. Hein. Je reviens à mon propos sur le peuple parisien pendant la Commune de Paris. Donc ce peuple parisien très divers, animé de ses idées quand même, très très remué par ses idées, elles ne sont pas mortes, et également revendiquant une république sociale, pas seulement une république qui est l'absence de roi. Ça veut rien dire, ça, c'est la définition de la république aujourd'hui dans les médias, quoi. La république, vous êtes vous républicain, je suis pas républicain, le Figaro est républicain, etc. Bon, quelle république? Au profit de qui? La république, ça peut être une république aristocratique, comme la république romaine, hein? Mais ça peut être aussi une république sociale. Une république sociale, c'est-à-dire une république favorable aux petites gens, aux travailleurs, aux faibles, etc. Bon. Effectivement, c'était une revendication, la république sociale. Ça a longtemps été le mot d'ordre de la gauche en France, république sociale. Hein, la sociale. On ne disait même pas république, on disait la sociale. Hein, alors, quoi de neuf sur le front de la sociale? Ces gens, ils sont animés d'idées extrêmement multiples. Hein. Essentiellement, je vous l'ai dit, proudhoniens, jacobins et anarchistes. Quelques socialistes dans le comité de directeurs de la Commune de Paris. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont influents. De toute façon, ces gens, quelle que soit leur origine, leur idéologie et les penseurs auxquels ils se rattachent, ils ont bien compris ce que c'était que la lutte des classes. Hein. Ils savent bien contre qui ils se battent. Hein. Ils ne se trompent pas. Hein. Ils ne sont pas comme les gens abrutis aujourd'hui par la télévision. Hein. Ils savent très très bien ce que c'est qu'un front de classe. Hein. Et ils vont effectivement se heurter à la bourgeoisie, des possédants, des propriétaires, des banquiers. Hein, qui vont envoyer leur armée pour les écraser, pour les mêmes raisons, inverse bien sûr, mais pour les mêmes raisons, hein. Et donc c'est une lutte de classe, la Commune de Paris, c'est pas une simple guerre civile, c'est une grande lutte entre le peuple parisien, la gauche, les socialistes, la partie la plus avancée de la classe ouvrière française et la bourgeoisie. Bon, c'est la bourgeoisie qui va gagner. Pour autant, est-ce que cette lutte était vaine, inutile, absurde? C'est ce qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui, évidemment. Quelquefois que les gens, les gilets jaunes ou les autres, voudraient s'essayer à refaire la même chose, c'est-à-dire renverser les gens du pouvoir et balayer les buveurs de sueur et les exploiteurs. Ah, c'est très très mauvais exemple. C'est pour ça que la Commune de Paris, soit on essaye de ne pas en parler, c'est ce qu'on a fait pendant plus de 100 ans, hein, soit quand on en parle, c'est pour la débiner, pour dire n'importe quoi à son égard, hein, en pleine contradiction avec l'histoire. Mais pendant ces 72 jours, il va se passer beaucoup de choses. J'aimerais bien que tu nous rappelles quelles ont été les grandes conquêtes de la Commune.
Sont proclamées la séparation de l'Église et de l'État, l'union libre est reconnue, l'école déclarée laïque est gratuite, les signes religieux sont enlevés des salles de classe, l'instruction des filles est à l'étude, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes envisagée, la citoyenneté française ouverte aux étrangers, la journée de travail dans certains ateliers réduite à 10 heures, ce qui laisse entendre qu'on travaillait beaucoup plus de 10 heures par jour. Le travail de nuit des boulangers supprimé, les retenues sur salaire interdites, un salaire minimum est instauré, la liberté de la presse est garantie. Il est décidé que les loyers parisiens non payés depuis 6 mois pour cause de pauvreté ne seraient plus dus. Et les poursuites concernant les échéances en retard suspendues aussi. 3 ans sont désormais accordés pour le règlement des dettes.
Oui, et puis tu oublies des choses aussi extrêmement importantes. D'abord, pendant toute la Commune de Paris, il y a eu des clubs de réunion. Le peuple citoyen s'est réuni régulièrement, très souvent, etc. Les petites gens ont participé. Hein, aujourd'hui, Macron a organisé des tables rondes, etc., en prenant des gens soi-disant à la base, etc. Mais la Commune de Paris avait, dans ce domaine-là, n'avait pas attendu Macron. Il y avait des réunions partout, les clubs, imitant les clubs jacobins, les clubs républicains, les cordeliers, etc., pendant la Révolution française, ont fleuri partout, dans Paris, etc., et ont discuté de la politique. La Commune aussi a inventé la révocabilité des élus. Les élus étaient sur un siège éjectable, c'est-à-dire qu'ils avaient intérêt à écouter les gens et à respecter leur mandat, en quelque sorte, hein, à ne pas trahir leur mandat. Hein. Tu t'imagines la modernité du truc, hein. Des gars qui sont élus pour un an, et puis si, entre-temps, il s'avère que c'est des planches pourries, tac, tu les vires. Ah, tu vas me dire, ça c'est anarchiste. Mais ça, c'est ça la démocratie. En fait, ces gens-là, c'était des démocrates. C'était eux les démocrates. C'était pas les Versaillais. Hein. D'ailleurs, on va voir la République qui s'installe en 1875. C'est une République qui est loin d'être entièrement démocratique, malgré le suffrage universel.
Et des patriotes.
Et des patriotes, bien sûr. Ça marche ensemble. Quant aux femmes, revenons sur les femmes. Elles ont participé à la Commune de Paris, à égalité avec les hommes. Le nombre de femmes, ça a frappé beaucoup les bourgeois, les pétroleuses, quand ils étaient mettre le feu aux Tuileries, etc. C'est épouvantable, ça. Mais elles n'ont pas fait que ça, elles ont participé à la Commune de Paris. Elles sentaient bien qu'il y avait un enjeu qui les concernait, elles. D'ailleurs, l'égalité de salaire entre l'homme et la femme, c'est la Commune de Paris. Et on n'y est pas encore arrivé aujourd'hui, de notre république bourgeoise, antidémocratique. Bref, c'est des gens qui ont innové dans tous les domaines. C'est assez admirable. Ça a fait l'admiration de Marx. Marx et Engels ont été témoins de la Commune de Paris, ont écrit, hein, La guerre civile en France, c'est un livre consacré à la Commune de Paris. Hein. Marx a écrit un ouvrage extrêmement intéressant là-dessus, et ils ont écrit dans des journaux anglais, américains, etc., des choses sur la Commune de Paris. Il paraissait en Angleterre et en Amérique des articles beaucoup plus honnêtes que ceux qui paraissaient en France, hein, évidemment, sur la Commune de Paris. La Commune de Paris a une influence considérable. D'abord, les révolutionnaires, les vrais révolutionnaires, hein, les socialistes, comme on les a longtemps appelés, puis les communistes ne se sont pas trompés. Et c'était des précurseurs de la révolution prolétarienne, de la révolution des travailleurs, de la révolution qui avait pour but de les débarrasser de l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Et un type comme Lénine a énormément étudié et écrit sur la Commune de Paris. Parce que les bolcheviks, Lénine et les bolcheviks, ils se sont dit, nous, on ne va pas se laisser massacrer. On peut dire que la révolution bolchevique, c'est une commune qui ne s'est pas laissée écraser par les forces de la réaction. Ils ont tiré les leçons de ce truc-là. Un certain nombre d'illusions, un certain nombre de naïveté de la Commune de Paris, et ce n'est pas parler négativement que de dire qu'ils ont été naïfs, parce que c'était la naïveté de gens généreux et de gens honnêtes, eh ben les bolcheviks, eux, ils vont pas se laisser aller à de telles concessions. Et c'est pour ça qu'ils vont gagner. Il y a énormément de textes là-dessus. Et c'est aussi pour ça que la Commune de Paris fait enrager les réactionnaires de tout temps, et aujourd'hui en particulier. C'est que ça va effectivement inspirer. Alors, bien sûr, nous le savons, pour les réactionnaires d'aujourd'hui, révolution bolchevique, affreux, caca, comme la Révolution française, hein, tout ce qui est révolutionnaire, évidemment, ce sont des conservateurs. Bon, ce qui est plus navrant, c'est quand on voit des travailleurs et des gens modestes aujourd'hui souscrire à de telles idées qui courent dans le Figaro, normalement dans le Figaro, mais bon... Revenons à la Commune, ça a été donc des précurseurs. Ça a été des gens qui ont écrit l'histoire très à l'avance. Hein. Ces gens-là, l'avenir de l'humanité, c'était eux. On leur doit énormément. Comme une étoile qu'on met au tombeau, comme disait Ferrat. Hein. On l'a mis au tombeau, mais elle ne s'est pas éteinte. Hein. On peut dire que le mouvement ouvrier, 20 ans après, en France, a ressuscité. Hein. D'ailleurs, pendant longtemps, hein, la gauche, la vraie gauche française, hein, les socialistes, les communistes, enfin, vraiment les gens qui se prétendaient des révolutionnaires, sont allés au mur des fédérés, là où ont été fusillés les derniers communards, pour rendre hommage à la Commune. Ils savaient ce qu'ils devaient à la Commune de Paris. En quelque sorte, nous sommes des nains huchés sur les épaules des géants, hein, encore plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Voilà. J'ajouterai encore une chose. La semaine sanglante, 28 mai 1871, ça a été des scènes de massacre épouvantables. On a massacré les gens, on les a enterrés vifs. Il suffisait d'avoir des traces de poudre sur la main. Femmes, enfants, vieillards, tout le monde a été massacré. Il y a eu des scènes qui ont été épouvantables. À tel point d'ailleurs qu'après la Commune de Paris, il y a un certain nombre de corps de métier qui étaient déserts. Le prix du travail a augmenté parce qu'il n'y avait plus d'artisans dans pas mal de domaines.
Au bas mot, c'est 20 000 victimes à Paris. Amplement plus que ce que la terrorisante terreur de 93, qui continue à faire ululer les éditorialistes polis, aura finalement à Paris fait beaucoup moins de victimes que cette commune. J'ai un ami qui m'avait dit, je ne sais pas si c'est une métaphore poétique, que les armées de tiers avaient arrêté de massacrer les communards parce que le sol de Paris était tellement gorgé de sang que la terre n'arrivait plus à voir le sang des victimes.
Oui, ça a été une horreur.
Commise par les Versaillais sous le haut patronage de l'armée allemande qui encerclait la ville.
Ça a été fait très légalement et ensuite après l'ordre est revenu. L'ordre, c'est-à-dire l'ordre républicain, etc. On allait pouvoir s'occuper des choses sérieuses une fois que la classe ouvrière a été matée. Ils ont maté la classe ouvrière dans le sang. On peut comparer ça un petit peu à ce qui s'est passé au Chili en 73. On a enfermé les gens, on les a massacrés, fusillés, etc. Et bon, voilà, ensuite après, l'ordre régnait à Santiago. On peut considérer ça aussi un petit peu comme la répression de la révolution spartakiste en 1919 en Allemagne. Ensuite après, la République de Weimar a pu s'installer. Sauf que, évidemment, dans le sang des spartakistes, le nazisme s'est développé, bien sûr, évidemment. Cette république qui a massacré ses ouvriers a pas eu énormément de moyens de se défendre contre le nazisme. Bah oui, c'est comme ça. Il y a dans l'histoire contemporaine, de 19e, 20e siècle, il y a des épisodes comme ça où la bourgeoisie, pour se maintenir, a dû massacrer. Alors, c'est la lutte des classes, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais ensuite, après que, 150 ans après, les rejetons de la bourgeoisie française de tout poil, hein, viennent salir la Commune de Paris, là, c'est trop. Il faut se battre là-dessus, il faut se battre sur ce qui s'est passé réellement et sur les enjeux. Alors, est-ce à dire qu'il faut nécessairement que la violence soit là pour changer les choses? Et c'est pas les travailleurs qui choisissent, c'est pas eux qui ont le choix. La violence, elle est imposée par les ennemis de la Révolution. J'ajouterais même une chose, la violence, elle est permanente. Aujourd'hui, la violence sociale est considérable. Des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui ne peuvent pas se loger, des gens qui s'alimentent très approximativement, des gens qui se soignent mal ou pas. Donc contre des dizaines de millions de personnes, il y a une violence quotidienne qui est faite par le système capitaliste. Alors, il y a deux solutions. Hein. C'est, on laisse faire, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. On se bat. S'il y a lutte, il y a violence. Mais la violence, on peut pas l'imputer, c'est comme à Spartacus, les esclaves. Est-ce que la violence était due aux armées de Spartacus qui se battaient contre l'armée des maîtres de la République romaine? J'ai tendance à être du côté de l'armée de Spartacus, en 72 avant Jésus-Christ, ou du côté de la révolution berlinoise allemande en 1918, ou de la Commune de Paris en 1860, plutôt que de l'autre côté. On choisit son camp, hein.
Bon, dans les médias ou dans l'historiographie officielle, assez étonnamment, la violence de l'opprimé est toujours beaucoup plus violente que la violence de l'oppresseur.
Ah bah oui. Ah oui, t'as remarqué. C'est les méchants, c'est comme dans les westerns. C'est les Indiens sont les méchants. Hein, et, on oublie qu'évidemment, les Blancs leur ont pris leurs terres, ont massacré les bisons et puis massacré les Indiens. Oui, mais c'est les méchants. C'est bien connu puisque c'était à la télévision. Puis on n'imagine pas une émission de Stéphane Bern sur la Commune de Paris. Ben oui, mais enfin, c'est l'histoire qu'on raconte aux gens aujourd'hui, c'est Stéphane Bern, quoi. C'est la pauvre Marie-Antoinette, quoi. Alors, on peut supposer que pendant la Commune de Paris, on verserait des larmes sur Monseigneur Darbois, je crois, l'évêque de Paris, qui a pris une balle et qui est mort sur une barricade, qui voulait faire cesser les combats, etc., et qui est mort. On sait pas très bien ce qui a tiré, mais enfin, c'est les communards. Toujours est-il que c'est lui la victime, tu vois. Il y a 47 otages de Versailles ont été fusillés par les communards. Ça, c'est terrible, ça. C'est quand même plus terrible que les 25 000 populos parisiens qui ont été massacrés sans distinction par l'armée. Alors, il y avait un témoin d'ailleurs de l'époque qui dit qu'il y avait certainement beaucoup plus de monde qui ont été tués dans les rues de Paris par la répression que de gens qui montaient sur les barricades. Mais ça, on peut le supposer qu'ils n'ont pas fait beaucoup de distinctions. C'est un peu comme dans les guerres coloniales. Il ne faut pas oublier que là-dedans, il y avait des soldats qui avaient fait l'Algérie. Dans l'Algérie, on ne faisait pas beaucoup la distinction. Il y avait comme on dit aujourd'hui, des bavures, c'est ça, hein. On massacrait une noce ou. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu le centenaire de la Commune de Paris en 1971. Il y a eu des grandes manifestations, et là, hein, le Parti communiste était encore influent et puissant, et ça ressemblait à quelque chose, et il y a eu des publications tout à fait extraordinaires. Je me souviens d'une publication de la Nouvelle Critique sur les écrivains et la Commune de Paris, parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur les écrivains, journalistes, publicistes, etc. Très rare, on les compte sur les doigts d'une main, les gens de la bourgeoisie intellectuelle parisienne, qui ont soutenu la Commune de Paris ou ont condamné la politique versaillaise, etc. Bon, il y a Jules Vallès, toute petite bourgeoisie, c'était un homme instruit, c'était un homme qui était journaliste et qui a écrit des livres, donc bon, on ne peut pas le considérer comme le prolétaire de base.
D'ailleurs, il a participé aux événements, Vallès, il a combattu, il raconte ça dans L'Insurgé.
Un des romans de son triptyque sur l'enfant, l'étudiant, l'insurgé. Alors, Victor Hugo a une attitude... Enfin, ambigu, non. Il n'a pas été communard. Hein. C'était pas son milieu, c'était pas son truc. Mais très très vite, il a demandé l'amnistie des communards. Il s'est fait d'ailleurs conspuer parce que il demandait que l'on donne l'amnistie sur tous les communards qui avaient été exilés, déportés, condamnés aux travaux forcés, etc. Donc son attitude est plutôt mesurée, enfin, républicaine, plutôt bienveillante en quelque sorte. Mais de gens qui ont soutenu, qui ont vu ce que c'était et qui ont pris parti pour la Commune, non, il y en a quasiment pas. Et même certains se sont déshonorés, y compris Flaubert, Maxime Ducamp, etc. Bon, tous les écrivains, etc. Aucun n'a souscrit aux objectifs de la Commune, qui étaient pourtant des objectifs... légitime, etc. Mais bon, la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie. Hein. Alors aujourd'hui, tu vois, on pourrait dire un peu la même chose avec le mouvement des Gilets jaunes ou avec les mouvements de protestation sociale. T'as pas énormément de grands intellectuels en vue, etc., qui prennent position pour le mouvement social contre la politique de la bourgeoisie. C'est que dans l'ensemble, dans un régime bourgeois, la bourgeoisie, elle tient ses intellectuels, elle tient ses publicistes, y compris ses historiens d'ailleurs. C'est des historiens qui écrivent des choses qui sont proprement scandaleuses, inacceptables de la part d'historiens sur ce mouvement-là. Parce que il est passé là-dessus des publications. Mouvement révolutionnaire, caca, violence révolutionnaire, caca, révolution, caca. C'est comme ça. Et tu... Non, on ne prend pas parti pour l'ouvrier en révolte. C'est un épisode extraordinaire. Alors je regrette, mais je regrette une chose qui est en fait presque inévitable. La bourgeoisie au pouvoir ne va pas, ne va pas glorifier les gens qui voulaient sa peau.
Nous sommes au moment de l'enregistrement de cette émission, 150 ans après la Commune de Paris et les plus de 20 000 morts de sa répression sauvage. Soit infiniment plus d'exécutions que pendant la Terreur de 1793 dont on nous rebat les oreilles à longueur de temps, alors que les victimes de la Commune sont passées sous silence. On l'a dit, cette histoire est complètement taboue, bannie des manuels scolaires et des médias. Car héritière de la bourgeoisie assassine d'hier, la bourgeoisie d'aujourd'hui reste terrorisée par la Commune et plus globalement par l'histoire des faits. C'est d'ailleurs pour une raison analogue que sous le gouvernement Macron de 2021, il a été décidé de refermer des archives concernant les années 1930-1940. Des documents compromettants pour la bourgeoisie industrielle et bancaire française, archives relatives à la collaboration avec les nazis, mais aussi... archives concernant la responsabilité de la bourgeoisie française dans l'avènement de régimes fascistes partout dans l'Europe des années 20, 30 et 40. Contrôler le présent passe donc par le contrôle du récit du passé. Pour contrôler les populations d'aujourd'hui, il faut contrôler l'histoire et les historiens, André.
Le combat idéologique est un combat fondamental, enfin un combat essentiel pour la bourgeoisie aujourd'hui. Comment se fait-il qu'elle se maintienne au pouvoir comme ça de façon permanente ? Ben, c'est parce qu'elle tienne idéologiquement les masses, les gens, l'opinion. Elle a à sa disposition une quantité de gens pour se maintenir. Tu parlais des historiens. L'histoire, c'est un des fronts du combat idéologique et sans doute le front le plus important. Ces historiens universitaires, ils sont pour la grande majorité au service de l'idéologie dominante et des idées de la bourgeoisie, ils influencent eux-mêmes d'autres gens. Dans les écoles supérieures, l'ENA, Sciences Po, qu'est-ce qui fait autorité ? Dans l'histoire qui est distribuée aux gens qui vont diriger le pays, fonctionnaires, hauts fonctionnaires, diplomates, ministres, etc., ou même professeurs du secondaire. Où prennent-ils leurs idées, leurs connaissances, ou ce qu'ils pensent être leurs connaissances? C'est dans la connaissance universitaire qui fait foi, qui fait autorité. Si la plus grande majorité de cette historiographie contemporaine est aux mains de ces gens-là, ce qui est le cas aujourd'hui, contrôlé, hein. Le recrutement à l'université se fait pas comme ça, tu sais, sur la belle gueule ou sur... Non, non. Et uniquement et sur la qualité des travaux et trucs comme ça. Elle se fait aussi sur les opinions qu'on sait, qu'on subsume, qu'on devine chez les gens qui vont devenir professeurs.
Et puis alors, les étudiants qui veulent devenir profs, ils sont pas idiots. Ils ont bien compris qu'il faut dire ce qu'on attend d'eux s'ils veulent un jour avoir un poste.
C'est vrai, mais ils finissent par y croire, si tu veux. Tu interroges les gens qui sont passés à Sciences Po ou à l'ENA, etc. Ils ont été nourris, ils ont baigné dans cette idéologie, dans cette historiographie, si tu veux, officielle. Et tu finis par y croire, puisqu'il y a tant de gens qui le disent, c'est que ça peut pas être complètement faux. Moi, j'ai eu des collègues agrégés qui croyaient dur comme fer dans un certain nombre d'idées qui étaient parfaitement fausses, hein, qui étaient parfaitement à côté de la plaque, à côté de l'explication. Mais ça faisait autorité. Il y a des clubs d'idées. Tu te rends compte la puissance aussi des think tanks de la bourgeoisie qui sont des fournisseurs d'idées, des fournisseurs de discours, des fournisseurs de formules, des fournisseurs de combats idéologiques pour l'ensemble des journalistes, des éditorialistes, etc. Tout comme ça, ces gens-là, ils sont jamais à gauche. Hein. Ils sont jamais à gauche. Tu les entendras jamais dire quelque chose qui soit pas dans la ligne idéologique. La bourgeoisie a un compte. Elle y tient énormément. Elle sait que si ce truc s'effondrait, si... Ce serait miraculeux, hein, je veux dire, j'y crois pas beaucoup. Mais ils perdent le pouvoir. Ils perdent le pouvoir parce que c'est celui qui écrit l'histoire, c'est celui qui fait l'histoire, c'est celui qui gagne en quelque sorte. Alors bon, il y a un front, hein, y a un parti, il y a un combat. D'un côté, le mouvement ouvrier, socialiste, révolutionnaire, la vraie gauche, on va dire. Hein. Puis de l'autre côté, la bourgeoisie qui tient ses positions. Elle a intérêt à imposer un mode d'explication des choses qui soit le mode d'explication. Je t'ai parlé du Malais Isaac, édition 1930, destiné aux cours de terminale des lycées. Destiné à, je dis, 7%, maximum 10%, même pas, hein, de la population scolaire française, enfin des jeunes, il y a 7-8% qui passent le bac, tous les bacs confondus. J'ai rendu hommage au moins au Malais Isaac, parce qu'il y a 10 pages sur la commune, et du côté factuel, c'est bon. Il ne manque rien. On pourrait faire une critique, c'est qu'évidemment, c'est pas l'analyse de Marx ou d'Engels. C'est un point de vue républicain, classique, bourgeois, etc. Mais les faits sont là. À cette époque-là, on trouve qu'il n'y a pas de danger à dire ces choses-là à des gens qui seront les futurs cadres bourgeois, patrons, etc., ingénieurs ou hauts fonctionnaires, etc. Aujourd'hui, non, on ne pourrait même pas exposer ces trucs-là. C'est la réalité elle-même, les faits eux-mêmes sont gênants. Voilà pourquoi on essaye de verrouiller les archives les plus dérangeantes sur la bourgeoisie française. Regarde le discours officiel lénifiant sur la résistance, sur la collaboration, sur la défaite de 40, sur les Américains qui nous ont libérés. C'est faux, tout ça est faux. On sait que tout ça est plus qu'approximatif et en grande partie faux. Mais on ne peut pas réellement faire les faits. Si on faisait les faits, simplement les faits bruts, sans interprétation, ces faits-là seraient déjà dérangeants, seraient déjà extrêmement gênants. D'autant qu'il y a beaucoup de gens qui sont directement descendants des collaborateurs de 1940. Hein. Ça ne fait que deux ou trois générations, c'est rien du tout, ça. Hein. Et là, bon, peut-être que s'il y avait une autre façon de raconter l'histoire, je ne parle pas d'un catéchisme communiste et d'un catéchisme bolchévique, je parle d'une autre façon de raconter l'histoire qui prenne en compte les faits sociaux, politiques, sociologiques, économiques, etc., qui sont si importants. Là, les gens verraient les choses de façon un peu différente. Les choses d'aujourd'hui seraient différentes. Parce que tu te rends compte aujourd'hui, ce que peuvent avaler les gens, c'est le point de vue patronal, c'est le point de vue des banquiers, c'est le point de vue des financiers, en direct sur les chaînes d'information grand public, toutes les chaînes d'information, publiques ou privées. Il n'y a pas une voix discordante dans la façon d'interpréter les choses. Comment veux-tu résister à une chose pareille ? Nous sommes un faible nombre. Nous essayons d'éclairer un petit peu l'opinion sur ce que peut être l'histoire, la façon de la voir et la façon de l'utiliser aujourd'hui, dans le combat d'aujourd'hui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la gauche en France soit dans un état aussi lamentable ? Mais je crois que c'est parce que cette gauche, elle a perdu le combat de l'histoire. Je le disais déjà il y a 20 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas une chose qui... Aujourd'hui, au train où vont les choses, on commence par la décadence et la quasi-disparition du Parti communiste, et ensuite après, on arrive à la décadence de la social-démocratie classique, telle qu'elle pouvait exister dans les années 50, etc. Et aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a tout. Hein. Enfin, il y a des gens certainement bien disposés, des écologistes qui veulent le bonheur. Un monde propre, c'est très bien. Leurs intentions sont très louables. Mais leur compréhension politique est nulle. Elle est archi nulle. Comment imaginer que les sociétés humaines vont pouvoir s'attaquer au problème de la dégradation massive et rapide de notre biosphère sans s'intéresser aux rapports sociaux de production, à la façon dont l'économie se fabrique, fonctionne. Le mot capitaliste est absolument exclu de leur vocabulaire, alors que c'est le mot fondamental. Ou il y a une façon capitaliste d'exploiter le monde, ou il y a une façon pas capitaliste. Enfin, socialiste, on va dire, collective, fondée sur le bien commun, etc. Totalement incompatible. Et je ne vois jamais d'analyse sur ce point fondamental, ni de prise de position qui pourrait permettre de donner un semblant de solidité, si tu veux. Moi, je pense que c'est un gros piège idéologique de la bourgeoisie. On va leur filer la défense de la nature. On pourra toujours récupérer nos billes. Il y aura toujours du business capitaliste à exploiter, même avec les écolos, etc. Et c'est ce qui se passe. Et ça n'empêche pas la dégradation. Hein. Tu peux même les mettre au pouvoir, les écologistes tels qu'ils existent aujourd'hui. Il ne se passera rien. Hein. Pas grand-chose de fondamental. Si on va protéger la pigrièche de l'Ardèche, hein, le crapaud siffleur du Doubs, je parle de vrai combat contre la destruction de notre habitat. Le problème, il est anthropologique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord examiner la place de l'homme dans la nature avant de savoir quelle va être l'attitude de l'humanité face à ces problèmes, bien évidemment. Donc si tu veux, on a déplacé, c'est très habile, tu sais, les capitalistes, ils trouvent toujours un truc, tu sais, pour botter en touche, etc. Alors, c'est souvent des combats légitimes et extrêmement respectables. La lutte contre les discriminations, la lutte, bien sûr, pour la défense de la nature, et trucs comme ça. Mais c'est à chaque fois, tu remarqueras, une récupération idéologique énorme, considérable, et contre laquelle je ne vois pas beaucoup de réponses, de vraies réponses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut d'abord s'attaquer aux problèmes politiques et ensuite après s'occuper des femmes, des homosexuels, de la nature. Non, faut tout faire ça ensemble. Mais d'abord, il faut intégrer tous ces combats dans un combat fondamental contre le principe de destruction de l'humanité qui est le capitalisme. Le capitalisme. Je sais, c'est un gros mot. Hein. C'est pour ça que je le répète, tu sais, j'aime dire les gros mots, je suis comme un gosse, moi, tu sais. Tant que ces gens-là ne seront pas sortis de leur infantilisme politique... Revenons à la Commune de Paris. La Commune de Paris sert à justifier ce type de combat, tu sais, où tout le monde il est gentil, tout le monde est, hein, où il y a une petite Suédoise qui se balade dans le monde avec des fleurs dans les cheveux, etc. Pas de violence. pourquoi tant de violence dans ce monde déjà violent, etc. Comme si il fallait pas user de violence contre un système ultra-violent qui est le capitalisme. Il faudra de toute façon. Alors c'est pas très commercial, c'est pas très glamour, mais il faudra une violence. Tu penses que ces gens-là vont quitter leur privilège, gigantesque privilège d'aujourd'hui? Ils veulent même être éternels aujourd'hui, ils ne veulent même plus mourir, tu vois. C'est des gens qui se battent pour l'immortalité, rester jeune tout le temps, bandé à 82 ans, etc. Et si tu mets pas fin à ce système-là, jamais ces gens-là n'abdiqueront leurs énormes privilèges par rapport à l'énorme masse de l'humanité souffrante. Jamais. Bah oui, il y a une violence, contre une violence, il y a une violence. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut couper le cou à tous les oligarques, à tous les capitalistes au-dessus de 300 000 euros par mois, etc. Enfin bon, non, si ces gens-là veulent bien te filer leur pognon, sans brutalité, moi je veux même pas les condamner aux mines de sel et aux porcheries, hein. Je les laisse vivre, hein. Sans leur pognon, ils me dérangent pas.
En attendant, la Commune de Paris continue à faire peur, et c'est plutôt bon signe.
Bah oui, tu vois, rien de 20 ans après la Commune de Paris, il y a eu un mouvement anarchiste extrêmement actif et violent en France. Une partie de ce mouvement anarchiste a versé dans la violence, l'action individuelle, les bombes, les trucs comme ça, qui a servi d'ailleurs au gouvernement à faire des lois scélérates pour réprimer l'ensemble de l'opposition socialiste de gauche. Et ces anarchistes répondaient un petit peu à ce que je disais aujourd'hui, mais de façon individuelle. Le problème, c'était que cette violence était une violence minoritaire, extrêmement minoritaire, isolée, etc., et donc sans avenir. Non, je ne suis pas pour poser des bombes, je ne suis pas pour le terrorisme, etc., parce que c'est condamné. Toutes ces formes de violence individuelles sont condamnées. Il faut que la violence faite aux classes dirigeantes, elle soit une violence faite par la majorité des gens. Dans un mouvement révolutionnaire, alors ça peut être un mouvement illégal, hein, peu importe, mais en tout cas, il faut que ce soit une majorité de gens, sinon ça ne peut pas gagner. Ça ne peut pas gagner parce qu'en face, c'est ces gens, ils sont armés. La bourgeoisie aujourd'hui, elle est tout à fait capable, comme celle de 1871, d'écraser dans le sang une révolte populaire qui ne serait pas assez solide en France comme ailleurs. Faut se faire aucune illusion, hein. Tous ces gens gentils qui parlent à la télé, etc., c'est des tueurs pour certains. C'est des tueurs. Tu les prends tranquillement, ils ont à leur disposition des gens qui sont eux-mêmes des tueurs. Ces gens-là sont prêts à envoyer les CRS. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film extraordinaire qui s'appelle Gangs of New York. C'est un film génial où on parle des violences donc, à New York, c'est au moment de la guerre de sécession. Hein. À un moment donné, il y a une révolte populaire dans New York. Les dirigeants de la municipalité de New York, la grande bourgeoisie en quelque sorte, dit « Vous inquiétez pas », dit un des protagonistes, « On trouvera toujours assez de pauvres pour tirer sur l'autre moitié des pauvres. » C'est vrai encore aujourd'hui, t'as des gens, on va les payer suffisamment et ils vont tirer sur les autres. Donc toi, ça suppose que quand tu fais une révolution, il faut faire comme les bolcheviks. Hein. C'est-à-dire s'assurer qu'en face, ils n'ont pas plus de fusils que toi. Mais bon, c'est pas ce que je demande aux petits bourgeois écologistes modérés d'aujourd'hui, parce que au moins qu'ils prennent conscience de ce que c'est que la lutte des classes. Après, pour les moyens de parvenir à ces fins, ce sera une autre discussion. Il faut d'abord les armes de la critique avant la critique des armes, comme disait l'autre. Hein.
S'achève le second épisode de notre série sur la Commune de Paris avec André, qu'on remercie. Tu peux réécouter cet entretien et plein d'autres émissions sur notre site, polymix et lavoixoff.com, avant le prochain épisode de cette saga populaire, très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut!
J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises, le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur, et le souvenir.
souvenir que je garde au cœur et le souvenir que je garde au cœur.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques.